L'Antiquité dans tous les sens, dans la fabrique de l'histoire, quatrième volet aujourd'hui, la sexualité antique. Tous nos sens seront mobilisés ce matin dans notre série, car après la vue, après l'ouïe, après le goût, c'était hier, nous consacrons cette émission à la sexualité dans les mondes grecs et romains, même si nous expliquerons sûrement très rapidement que cette notion, la sexualité, est à interroger aussi bien pour la Grèce que pour Rome, avec Victor Massé de Lépinay, qui co-animera cette émission avec moi, et avec nos trois invités. Lydie Baudiou, elle est maître de conférences d'histoire grecque à l'université de Poitiers. Elle est contributrice au manuel sur le programme des concours, donc qui est le prétexte de cette série d'émissions, le programme des concours CAPES et agrégation de cette année, aux éditions Ellipse, autour de famille et société dans le monde grec et en Italie. Géraldine Puccini-Delbé sera avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Bordeaux, que nous remercions de l'accueillir. Elle est maîtresse de conférence habilitée à diriger des recherches en langue et littérature latine à Bordeaux-Montaigne. Elle est auteure d'une vie sexuelle à Rome dans la collection Poinceuil. Et enfin, Sandra Boringer sera avec nous en duplex depuis les studios de Radio France en Alsace, à Strasbourg. Elle est maîtresse de conférence en histoire grecque à l'université de Strasbourg. Elle est co-auteure avec Violaine Sébillotte-Cuchet de Hommes et femmes dans l'Antiquité grecque et romaine aux éditions Armand Collin, c'est la deuxième édition, avec Louis-Georges Tain de Homosexualité, aimée en Grèce et à Rome aux éditions des Belles Lettres. Et enfin, elle est co-auteure d'un coffret avec Didier Lette et Sylvie Stenberg, un coffret sonore, donc chez Frémaux et Associés, sur l'histoire des sexualités. Bonjour à vous. Pour commencer, Sandra Boringer depuis Strasbourg. J'ai dit tout de suite en ouverture de cette émission qu'il fallait peut-être remettre en cause cette question de sexualité. Lorsqu'on parle de sexualité, que dit-on d'aujourd'hui sur le monde grec en particulier, mais aussi sur le monde romain ?
Eh bien, si on raisonne comme un anthropologue qui souhaite pratiquer des comparaisons entre les cultures, on pourrait tout d'abord dire que la question de la sexualité pour l'Antiquité est d'une certaine manière anachronique. Alors, ça ne veut pas du tout dire que la question est illégitime, au contraire, ni qu'elle est inintéressante, pas du tout. En fait, quand on approche une autre culture avec des questions contemporaines, il faut s'attendre à ne pas trouver exactement ce qu'on cherche et pas exactement la catégorie à laquelle nous rattachons la sexualité.
Vous voulez dire qu'il faut partir vers cette Grèce antique sur ce sujet-là, comme vers une terre étrangère ?
Exactement, c'est un voyage en terre exotique. Aujourd'hui, pour aller très très vite, on a rattaché aux questions de sexualité des questions d'identité. Et Michel Foucault l'a montré aussi, la question d'une volonté de savoir, c'est-à-dire qui on est, qui on aime, qu'est-ce que cela dit de nous, etc. Et ce lien, cette articulation entre identité, vérité du sexe et nous-mêmes, est quelque chose qui est absent ou en tout cas très différent dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, ça sera le champ du corps, à propos duquel mes collègues pourront parler longuement, le champ du corps, la question d'Eros, la question des aphrodisiens. Donc finalement, c'est une démarche effectivement en terre étrangère avec les outils de l'anthropologue.
Sandra Boringer.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que très souvent, les chercheurs qui travaillent maintenant sur l'Antiquité dans ces questions-là parlent d'une société d'avant la sexualité, déjà. Mm-hmm. Et ils parlent aussi d'une question d'une société d'avant l'homosexualité, mm-hmm, et d'avant l'hétérosexualité. Et ça, c'est très intéressant pour nous qui sommes habitués à nous définir selon ces catégories-là. Eh bien, on se rend compte que dans l'Antiquité, la question de l'érotisme n'est pas liée à l'identité de sexe de la personne que l'on aime. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant, pour travailler sur ces questions-là, de commencer par des textes ou des traces de poèmes de l'époque archaïque grecque, 7e, 6e avant notre ère, qui chantent l'éros, mais ça peut être l'élan érotique pour des garçons comme pour des femmes.
Oui, sur ce point, bonjour Lydie Baudiou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. On peut dire que l'inscription au programme des concours d'histoire, de capacité d'agrégation d'une question comme famille et société dans le monde grec et en Italie, entre le 5e siècle avant et le 2e siècle avant notre ère, eh bien c'est l'occasion pour toute une génération de chercheuses et de chercheurs de mettre sur le devant de la scène, par des manuels en particulier, mais par tous leurs travaux, des nouvelles approches justement dont vient de nous parler Sandra Boringer et Lydie Baudiou.
Ah oui, c'est incontestablement l'occasion opportune de mettre en valeur des travaux sur l'histoire du corps en particulier, qui depuis une vingtaine d'années en histoire ancienne ont fleuri à peu près dans tous les sens, avec l'idée aussi d'une histoire sensorielle des corps.
Mais je crois que chez Routledge on publie ces temps-ci une série de travaux qui sont justement calqués sur ce découpage que nous avons fait avec Victor Massé de l'Épinay, sans même le savoir, donc des sens dans l'Antiquité, justement, sensitive studies, on dit.
Oui, et c'est probablement le temps très contemporain de l'histoire du corps, parce que on a beaucoup travaillé sur la médecine, on y reviendra peut-être, on a beaucoup travaillé sur les outrages au corps, sur les violences, sur les couleurs aussi, je pense à Adeline Grand-Clément, sur les jeunes, sur les vieux, et on arrive là, évidemment, dans la question de concours et la construction de la famille d'un point de vue anthropologique.
Oui, et Géraldine Puccini, vous êtes avec nous également depuis Bordeaux, Puccini-Delbé. Vous êtes spécialiste, vous, du monde romain. C'est la même chose aussi, une sorte d'aggiornamento des savoirs et des connaissances. Vous qui êtes auteur du sexe, la vie sexuelle à Rome, qui est publié maintenant en Point Seuil. Une sorte de mise à jour des connaissances pour votre question.
Oui, tout à fait. Depuis une vingtaine d'années, les recherches sur les représentations du corps, de la sexualité se sont énormément développées. Nos catégories actuelles de réflexion, comme l'a dit Sandra, sont absolument inadaptées. Elles n'ont aucun sens dans l'Antiquité. On ne peut pas parler d'hétérosexualité, d'homosexualité ou de bisexualité. À Rome, le schéma sexuel est phallocentrique, c'est-à-dire que l'action normative, c'est la pénétration d'un orifice du corps par un pénis. Le vocabulaire latin le montre très très bien. Il va désigner au niveau des relations sexuelles trois lieux susceptibles d'être pénétrés. La pénétration vaginale qui se dira par la famille du verbe foutuere, l'acte de pénétration anale, pédicare, l'acte de pénétration orale, irumare. C'est dire combien nos catégories actuelles sont absolument inappropriées pour réfléchir sur la sexualité. Et la sexualité est un concept moderne qui n'a pas non plus de terme latin correspondant. On va parler à la suite des Grecs, de Res Veneria et les choses de Vénus, les choses de l'amour. Donc c'est comme en Grèce, c'est la notion d'éros, d'amour, qui est primordiale.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, Géraldine Puccini, vous évoquez le phallocentrisme de la sexualité à Rome. Peut-être qu'il faut parler aussi de phallocentrisme, peut-être peut-on le faire, pour ce qui concerne les sources, que ce soit en Grèce ou à Rome. Il y a une donnée à laquelle, quand on travaille sur la question de la sexualité, on est confronté, c'est que les témoignages que l'on a, les textes que l'on a sur la sexualité, que ce soit en Grèce ou à Rome, ont été écrits tous par des hommes et même dans un certain contexte qui n'est pas forcément le contexte. Enfin, on sait peu de choses sur, peut-être qu'il faut le dire tout de suite, sur la sexualité domestique, ordinaire des habitants de Grèce et de Rome.
Lydie Baudiou.
Ah oui, la question des sources, c'est systématiquement ce qu'on pointe de manière générale quand on travaille sur l'Antiquité et particulièrement quand on travaille sur les femmes. Effectivement, c'est une donnée, c'est-à-dire que le discours est le discours que les hommes portent sur les femmes et voire même rapportent d'elles.
Discours moral, discours médical, etc., etc.
Oui.
Différents registres de discours, d'une certaine
manière. Alors, il y en a différents registres, effectivement, avec des gradations différentes. Effectivement, le discours médical, d'une certaine manière, est un peu différent, puisque c'est un discours corporel dont on sait que les médecins ont obligatoirement eu une recension auprès des femmes. Mais il n'empêche qu'effectivement, il est gauchi, de toute façon, par la parole qu'ils reprennent pour eux-mêmes.
Sandra Bourringer et puis Géraldine Puccini-Delbé sur cette question du discours.
En fait, la question du sexe des sources est une question très intéressante parce que finalement, on est dans un système de domination qui fait qu'on a la parole que d'une catégorie, la catégorie dominante, qui n'est pas uniquement la catégorie des hommes, qui est la catégorie des hommes libres et citoyens. Ce qui fait qu'on est dans un système complexe qu'on peut aborder avec une approche intersectionnelle. C'est-à-dire que dans ce système-là, c'est
préciser pour nos auditeurs ce que signifie l'intersectionnalité, parce que ça permet effectivement de mettre au cœur de la discussion quelque chose de très important, Sandra Bourringer.
C'est-à-dire, pour chaque culture, prendre en considération les divers types de différenciation, de hiérarchisation et de domination qui touchent les individus. Et on n'est jamais uniquement une femme. On peut être une femme dans un contexte d'esclavage, on peut être une femme affranchie, on peut être un homme esclave, un homme étranger. Donc il y a toujours une complexité. Disons que pour l'Antiquité, la question du sexe des sources se pose un peu différemment de notre société, où nous avons une conscience de ce que c'est qu'être un homme et une femme. Et il me semble que pour les anciens, la catégorie femme en tant que telle, hein, en tant que groupe qui pourrait se dire femme, avoir une approche féministe des choses et revendiquer des droits, n'existe pas. Donc dans la mesure où il n'y a pas ce sentiment d'identité, il n'y a pas une véritable différenciation idéologique des hommes et des femmes, il y a plutôt une construction idéologique de l'épouse et de l'époux au sein de la famille, hein, de l'oikos grec pour l'époque grecque. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que dans un système de domination, masculine ou d'esclavage ou etc. Tout le monde est pris dans ce système. C'est-à-dire que quand bien même on aurait des sources écrites par des femmes ou composées par des femmes, rien ne nous dit que ces femmes sortiraient du système de domination. On peut avoir actuellement des documents de femmes qui pratiquent l'excision et qui sont pour l'excision. Donc ce que je veux dire, c'est que bien sûr, c'est souhaitable d'avoir des sources qui proviennent de femmes, mais ça ne suffit pas non plus. L'intérêt, parfois, c'est de chercher justement des voies un peu marginales ou du moins des types de pratiques discursives qui nous permettent d'approcher ce que pouvait être aussi la réalité d'une vie érotique chez les femmes. Et je voulais juste donner un exemple. Un exemple qui fonctionne bien parce que on a une source composée par un homme à Sparte au 7e siècle avant notre ère. Il s'appelle Alcman et il a composé des Parthénées. Ce texte a été traduit par Claude Calame de façon très très belle. Et ce poète a été mandaté par la cité de Sparte pour composer des poèmes chantés par des jeunes filles. Et dans ces poèmes chantés en public, ces jeunes filles qui d'abord invoquent les divinités tutélaires de la cité et les grandes figures héroïques, donc il y a véritablement une dimension civique et publique, eh bien ces jeunes filles ensuite vont chanter un chant particulièrement érotique où elles expriment, hein, c'est le je et le nous de la chanson, où elles expriment le sentiment amoureux et érotique qui les impacte, qui les touche envers leur chef de cœur qui est une femme. Donc il y a l'expression d'un sentiment homoérotique en public pour une femme composée par un homme dans un contexte culturel particulier. Et si je puis ajouter une chose à propos de la question du corps et des sens, ce qui est très intéressant, c'est que la façon dont elles vont exprimer la façon dont le corps est touché, impacté, eh bien, elles reprennent des termes qu'on peut trouver dans l'Iliade, dans l'Odyssée, donc dans les vers d'Homère. On peut retrouver cette expression-là aussi chez des poètes masculins, Anacreon. On peut retrouver ces formes-là chez Sappho. C'est le sentiment que le corps se dérobe, les genoux tombent, on devient vieux ou on devient presque mort. Et ce sentiment de douleur qui nous envahit est comme le sommeil. Donc c'est intéressant de voir aussi cette synesthésie parfois dans l'expression du sentiment amoureux. Et cette synesthésie, tous ces sentiments qui viennent, toutes ces émotions qui viennent toucher le corps, puisque c'est d'abord le corps qui est touché par le sentiment érotique et qui fait de la personne qui le ressent une victime et non pas quelqu'un d'actif, eh bien c'est le fait de ne plus pouvoir parler, le fait de ne plus pouvoir respirer, le fait de sentir des choses passer sous la peau du corps. Et ça, c'est le fameux fragment 31 de Sappho qui a été repris par Racine lorsqu'il fait dire à Phèdre « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, etc. » Eh bien, ce sentiment-là qui est exprimé par Phèdre lorsqu'elle voit Hippolyte pour la première fois, quand elle raconte ce souvenir-là, c'est Sappho qui l'a écrit au VIe siècle avant notre ère pour une femme.
Il faut le rappeler, effectivement. Géraldine Puccini-Delbé, est-ce que ce silence des sources est si important aussi pour l'Antiquité romaine dont vous êtes spécialiste ?
Oui, nous allons retrouver la même problématique et la même difficulté, puisque nos sources sont essentiellement masculines, à une exception près, sur laquelle je pourrais revenir. Et j'ajouterai que la société romaine est une société extrêmement hiérarchisée et que donc les rapports, les statuts sociaux sont essentiels, comme le disait Sandra pour la société grecque. Dire qu'on est un homme ou une femme ne suffit pas. Il faut préciser si on est de condition libre, affranchi ou esclave. Et nos sources masculines proviennent de l'élite sociale. Tous les écrivains, à une exception près, appartiennent aux couches les plus élevées de la société. Donc nous avons un regard très très étroit sur la société romaine et sur cette question de la sexualité, sur ces questions qui relèvent de l'intime. Tous les groupes de la société sont subordonnés à cette élite masculine sociale. Les femmes, les affranchis, les esclaves, les enfants sont subordonnés à cette élite masculine et n'ont pas droit au chapitre, si j'ose dire. Nous n'entendrons jamais leur voix. Alors nous avons quand même une exception notable. Nous avons conservé quelques fragments d'une poétesse élégiaque, donc qui a écrit des poésies érotiques à l'époque d'Auguste, à l'époque augustienne, à la fin du 1er siècle de notre ère. Elle s'appelle Sulpicia et elle a visiblement une relation intense avec un jeune homme, Serintus, avant le mariage, ce qui est absolument impensable dans cette société-là. Et c'est un témoignage exceptionnel parce que en tant que femme, elle va oser braver les interdits sociaux et moraux de sa société pour revendiquer haut et fort sa liberté sexuelle, sa jouissance physique. Donc c'est un témoignage vraiment tout à fait exceptionnel. C'est la seule source féminine que nous avons conservée et encore à l'état de fragments, malheureusement.
Merci Géraldine Puccini-Delbé. Si on revient en arrière dans ce monde grec qui est important pour notre question sur la sexualité dans le monde grec et antique, vous avez mis l'accent tout à l'heure, Lydie Baudiou, sur la question du corps en disant qu'il faut se poser la question de ce corps dans l'espace grec antique et en particulier du corps des femmes. Qu'est-ce que ce corps des femmes au regard de tous les autres de la société antique ? Alors, il faut préciser, femme libre ou femme esclave, ça n'est pas exactement la même chose. Mais qu'est-ce que ce corps des femmes et comment est-il important de le replacer au cœur de notre discussion d'une certaine façon sur la sexualité?
Oui, et au cœur de la question de concours, hein, puisque effectivement la question se pose de la construction d'une famille. Et construire une famille, c'est une réalité complexe, hein, celle du mariage, du choix du conjoint, des stratégies matrimoniales, de codes. Mais effectivement, dans le cadre de la cité grecque, c'est-à-dire dans le cadre restreint de la transmission du statut de citoyen, eh bien, il s'agit de faire des enfants légitimes dans un cadre conjugal. Et indiscutablement, sans là que la question se pose, c'est sur les femmes que repose le poids de la génération. Et leur corps est assignée dans ce cadre circonscrit, hein, qui est celui du mariage et de la sexualité conjugale. Donc là, je ferme un peu la problématique de la sexualité, hein, c'est celle de la sexualité automatiquement reproductive. Eh bien, la femme est réduite à cette spécificité corporelle qui dit son utilité sociale, hein, faire des petits pour la cité.
Donc on y pense dès avant la puberté. Et on construit une construction sociale autour de cette jeune femme qui va d'une certaine façon être dite par les médecins, à être dite par les philosophes, et par exemple tout le corpus hippocratique réfléchit de façon très intense, dites-vous, Lydie Baudiou, à cette question-là.
Oui, parce que l'enjeu des médecins comme des pères et comme des maris, c'est-à-dire tous ceux qui sont en responsabilité de ces jeunes filles et puis de ces femmes et de ces épouses, c'est que au mieux soient conformés ces corps.
Donc, une fois que les règles sont arrivées, dit le corpus hippocratique, ce qu'il y a de mieux pour les femmes, c'est de devenir enceinte. Donc oui. On passe directement du statut de jeune fille au statut de mère.
Oui, oui, le temps est terriblement raccourci pour les jeunes filles, hein, puisque la veille elles sont enfants, parthénos, hein, et le lendemain, effectivement, le texte auquel vous faites référence, ces maladies de jeunes filles, hein, de attribué à Hippocrate, dit très clairement que elles ont physiologiquement un handicap, hein, ou en tous les cas une spécificité corporelle qui est leur utérus, mmh, et que à ce moment où effectivement elles sont en âge produisant, c'est-à-dire avec un signe visible que leur corps est capable, c'est-à-dire les règles, hein, il faut d'abord que quelque chose le montre, mmh, et s'extériorise de ce corps, c'est les règles, eh bien, il faut les marier très vite.
Et à ce moment-là, les rapports sexuels font du bien, non seulement à ce couple qui se constitue et qui va avoir des enfants, mais à l'ensemble de la cité.
Parce ça fait que du bien pour tous.
C'est ça.
Oui, ça fait du bien à la fille qui l'injonction thérapeutique du médecin, c'est qu'elle aille très vite se marier ou qu'elle aille très vite auprès de l'homme qui va briser l'obstacle de ce corps. Elle sera mieux enceinte. Hein. Il y a beaucoup de références dans le corpus hippocratique disant que elles sont mieux portantes quand elles sont enceintes. Et évidemment, cette sexualité injonctive, hein, finalement, sert aussi la cité qui a besoin de production de petits.
Victor Massel Lépine.
Ce qui est très intéressant dans ce texte d'Hippocrate, maladie de jeune fille, c'est qu'en effet, Hippocrate explique que la maternité va faire du bien à la femme elle-même, mais on sent, quand on lit ce texte, une tension, le drame de la non-maternité, qui est des maladies terribles, le sang qui monte au cerveau, qui serre la gorge, les pulsions de mort, puisqu'il nous explique qu'une jeune fille qui est dont le sang ne peut pas s'évacuer va avoir envie de se suicider, et on sent dans ce texte quelque chose qui va durer des siècles, un peu sur l'hystérie féminine ou quelque chose qu'on va retrouver.
Oui, il le dit dans ce texte pour la jeune fille. Alors ce qui est intéressant du coup, c'est que ça montre aussi que la puberté est pensée comme une maladie, hein, véritablement, puisque il y a une réponse thérapeutique, parce que ce corps est soucieux, parce que il est clôturé, et c'est l'acte sexuel qui va finalement libérer cette jeune fille. C'est en tous les cas ce que dit le texte, hein. Si elles deviennent enceintes, elles guérissent. C'est pas vrai que pour les jeunes filles d'ailleurs, hein, parce qu'il y a d'autres textes dans le corpus hippocratique qui s'adressent pas seulement à ces jeunes filles, mais c'est vrai des veuves, c'est vrai de toutes celles qui ont un corps qui n'est pas utile finalement.
Sandra Boringer, sur cette question.
Oui, Lydie Baudiou a tout à fait raison de distinguer en fait les pratiques de la sexualité au sein de la famille, avec toutes les attentes politiques qui sont autour, à savoir produire, hein, produire des citoyens. Et de fait, être célibataire, même pour un homme citoyen, n'est pas très bien vu. Mmh. Finalement, de la question plus générale de la sexualité et de l'érotisme. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, la question de la famille ou du couple est liée à la question de l'érotisme et de l'amour. Mmh. L'idéal d'une famille, c'est les parents s'aiment et ont des relations sexuelles de façon plus ou moins exclusive, on va dire. Je parle vraiment d'idéal de la norme. Mmh. Bien dans l'Antiquité, c'est différent. C'est-à-dire qu'une fois que l'épousé a rejoint son époux, la question de l'érotisme disparaît plus ou moins dans les discours, puisque l'attente politique est différente. Alors, il y a
comment vous précisez ça pour nos auditeurs?
Oui. Eh bien, dans les textes qui nous sont parvenus et dans les peintures, dans l'iconographie qui nous est parvenue, on voit que finalement, là où quand l'accent est mis sur la rencontre érotique entre un homme et d'autres personnes, aussi entre deux femmes, j'en reparlerai si j'ai le temps, c'est que l'accent est mis davantage sur des relations extra-conjugales. En fait, à l'origine, il y a une érotisation du mariage, du gamos, avec des fêtes, avec la représentation de petits éros qui volent autour des mariés. Mmh. Donc clairement, on demande le soutien d'Aphrodite et d'Eros autour de cette rencontre. Mais ensuite, dans la vie quotidienne, l'époux, lui, a tout à fait le droit d'aller rencontrer des hommes et des femmes à l'extérieur du couple, alors que l'épouse, elle, reste à la maison et ne rencontre personne d'autre que son époux, sinon c'est un adultère. Et c'est intéressant pour la question de la famille de voir que le terme d'adultère tel que nous l'entendons actuellement, qui est symétrique, on va dire, eh bien, est totalement asymétrique dans l'Antiquité. C'est-à-dire que le fait pour un époux d'avoir une concubine, hein, le terme utilisé est palaquet, ou d'aller voir un garçon, d'aller fréquenter les prostituées, est tout à fait normal. Et finalement, d'avoir une sociabilité homoérotique est plus que normal. C'est presque encouragé, valorisé. Lorsqu'on regarde les images érotiques sur les coupes qui circulent dans les banquets, on voit des relations érotiques entre hommes, des relations très explicites, des touchés du sexe, des touchés du menton, des échanges de cadeaux. On voit aussi de tels échanges de cadeaux avec des femmes, peut-être des courtisanes, peut-être des palaquets. On ne sait pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment que ces types de des relations érotiques sont mises sur le même plan dans un contexte de sociabilité masculine qui véhicule les images très positives de ce que nous appelons homoérotisme, mais qui pour les anciens sont essentiellement de l'érotisme.
Et vous vouliez insister
pour aller dans le sens de
vous vouliez ajouter
pour
sur la
Lydie aussi. C'était la question de la différence d'âge, et ça c'est vrai qu'il y a un goût pour les Grecs pour les jeunes corps, mais finalement lorsqu'on regarde l'âge des jeunes filles au mariage, on voit un qui a en général, environ, pour faire une moyenne générale, 15 ans de différence entre elle et son époux. Selon les cités, ça varie. Eh bien, de la même manière, on pourrait dire que les hommes grecs choisissent des jeunes filles plus jeunes, comme souvent on représente des hommes grecs dans des relations érotiques avec des garçons plus jeunes. Donc s'il y a pédérastie, elle est à la fois chez les hommes et chez les femmes.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, mais comme Sandra Boringer évoque la pédérastie en Grèce, peut-être qu'on peut en parler, puisque dans ce qui est passé de la Grèce à Rome, il y a une chose qui n'est pas passée, Géraldine Puccini, c'est ce goût... pour les jeunes hommes libres, pour les jeunes garçons futurs citoyens, des citoyens plus âgés, ça c'est quelque chose que les Romains refusent absolument.
Oui, vous avez parfaitement raison. Les Romains ont repris, je dirais, tous les schémas traditionnels venus de Grèce, hein, ce partage entre une sexualité de reproduction dans l'institution du mariage et une sexualité de plaisir dans les relations extra-conjugales. Mais en dehors de cette reprise, effectivement, la pédérastie est absolument impensable à Rome. Tout simplement parce qu'il s'agit certainement d'un interdit, non pas sexuel, mais d'un interdit politique. Le jeune Romain doit accéder à l'âge adulte. Et pour ce faire, il doit accéder à sa pleine masculinité. Donc devenir un weir implique qu'il soit toujours dans la position active. Il faut qu'il soit dans le schéma de domination. C'est lui le dominant et il ne doit pas être dominé. Donc accepter des relations sexuelles où il tiendrait le rôle passif, comme dans la relation pédérastique grecque, est impossible parce que ça le démasculiniserait en quelque sorte, ça lui ferait perdre cette masculinité à laquelle il tend et à laquelle il advient lorsqu'il arrive à l'âge adulte. Donc la pédérastie est vraiment impossible, en théorie bien sûr, à Rome.
Si je puis permettre...
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Quatrième et dernier volet d'une série d'émissions consacrée au sens dans l'Antiquité, l'Antiquité dans tous les sens. Et aujourd'hui, nous parlons de sexualité. J'ai l'impression qu'avec cette petite chant de nymphe, je vous ai coupé, Sandra Boringer. Vous vouliez rajouter quelque chose à ce que disait Géraldine Puccini-Delbé sur notre débat sur la sexualité.
Tout à fait, Géraldine a tout à fait raison de dire que effectivement il y a un interdit qui porte sur les corps libres, sur les corps de garçons libres. En revanche, ce qui est fou, c'est qu'on constate que cet élan érotique pour des jeunes corps existe envers des personnes, des jeunes gens esclaves. C'est-à-dire que finalement, ce goût à la grecque, qui est très valorisé, hein, la culture grecque est particulièrement valorisée à Rome, eh bien persiste. Mais c'est l'interdit civique dont parlait Géraldine Rest. Donc finalement, on pourra trouver des poèmes érotiques ou des adresses à des jeunes garçons qui ne sont pas libres. Donc cet élan érotique non sexué, en fait, existe toujours. Après, évidemment, tout est pris dans des normes politiques. Alors, et ça, c'est intéressant de voir comment les normes varient selon les époques, selon les périodes et selon les cultures.
Ouais, puisque vous parlez...
On revient à la question des statuts sociaux. Oui. C'est-à-dire que ce qui est impossible entre deux hommes de condition libre va l'être parce que, précisément, celui qui va tenir le rôle passif est de condition servile.
Donc, quand on parle de sexualité, il faut y ajouter, Sandra Boringer, des questions sociales, des questions culturelles, des questions religieuses, parce que tout cela, évidemment, n'est pas cantonné dans le simple domaine que l'on appellerait le domaine de l'intime aujourd'hui, Sandra Boringer.
Non, en effet, il y a véritablement l'idée que la personne qui ressent un élan érotique, pas forcément être amoureuse, mais ressentir un élan érotique, c'est quelque chose de plus vaste en réalité. En tout cas, dans la poésie grecque de l'époque archaïque et du début de l'époque classique en Grèce, eh bien, on voit que la personne qui ressent Eros devient passive. Donc finalement aussi, ce point de vue sur actif-passif, il est chaque fois à contextualiser. Mmh. Effectivement, d'un point de vue politique et civique, il y a des relations qui vont marquer certaines personnes comme étant dans une situation de passivité parce qu'elles vont se mettre au service sexuel de quelqu'un. Après tout, différentes pratiques sont possibles là aussi, hein, différentes pratiques physiques et sexuelles. Mais à l'inverse, lorsqu'on ressent l'élan érotique, être frappé d'Eros, c'est être victime d'Eros. Donc très souvent, lorsqu'on dit l'amant, lorsqu'on voit le terme d'Erastès dans les textes grecs, celui qui est l'amant, en fait en français on met ça à l'actif, eh bien c'est plutôt la personne qui est victime de l'amour. Ouais. Et les Romaines, la personne qui est aimée, est en réalité celle qui détient le pouvoir érotique sur l'autre. Ouais. Donc ce qui est intéressant avec Eros, c'est que ça bouleverse aussi
les
hiérarchies.
Les catégories que nous avons.
Exactement, les catégories et les hiérarchies.
Lydie Baudiou, alors qu'est-ce qui serait, parce que la norme est importante, qu'est-ce qui serait interdit dans le monde grec? Qu'est-ce qui serait, punissable? Est-ce que par exemple la violence sexuelle est quelque chose de punissable? Dans quelles conditions peut-on la pratiquer ou pas dans le monde grec? Est-ce que la question de l'inceste est quelque chose de très fort? Est-ce que la question, on l'a déjà plus ou moins évoquée, de l'adultère l'est aussi? Qu'est-ce qu'il en est justement de ces questions qui sont des questions qui anthropologiquement ont toujours intéressé justement quand on parle de la sexualité?
Oui, la question de l'hubris est au cœur de votre question, qui est que
le tout pouvoir d'une certaine
oui,
façon.
Oui, voilà. Alors le tout pouvoir, il est dans les mythes, hein, exposé largement dans le rapt, qu'il s'agisse des jeunes filles ou qu'il s'agisse par ailleurs de la même manière des jeunes garçons. Mais effectivement, il y a à la fois des règles et des normes et parfois des lois, effectivement, qui réglementent effectivement des pratiques avec des jeunes gens trop jeunes. Effectivement, même si on sait par ailleurs que les mariages, Sandra l'a dit, hein, sont parfois très précoces, voire même prépubères, hein, pour certains d'entre eux. C'est ce que Pierre Boulet a très clairement montré. Et effectivement, des questions se posent sur cette violence et l'atteinte au corps. Mais la question qui se pose aussi, très clairement, Sandra l'a dit à un moment donné, c'est l'atteinte au corps du propriétaire. Hein, puisque l'adultère, par exemple, hein, qui fait l'objet d'une législation à Athènes et dans d'autres cités d'ailleurs du monde grec, c'est de manière unilatérale, Sandra l'a rappelé tout à l'heure, hein, c'est la femme, hein, qui est condamnée. Mmh. Et effectivement, seule pèse sur elle le souci de cet enfant qu'elle pourrait porter, et c'est l'atteinte à la propriété d'un autre, tout simplement. Et donc, c'est véritablement encore le système de domination de propriétaire sur un corps qui n'appartient pas puisqu'il a été donné à un autre.
Géraldine
Pouch. Oui, de la même...
Ah, pardon. Oui, allez-y, Sandra.
De la même manière, quand quand on viole un esclave, enfin si un propriétaire, si un individu libre viole un esclave, c'est grave si c'est l'esclave d'un autre, donc la question du propriétaire, ce n'est pas grave si c'est son propre esclave. Donc finalement, de nouveau, la question de la violence ne se dit et ne se formule que dans un contexte de hiérarchie sociale.
Géraldine Puccini-Delbé, vous avez travaillé justement sur ces interdits, par exemple la question de la violence ou la question de l'inceste. À Rome, comment cela se passe-t-il ?
L'inceste est certainement le tabou, un des tabous les plus forts de cette société-là, ainsi que l'adultère féminin. Comme Sandra l'a dit pour la culture grecque, l'adultère féminin engendre certainement une des plus grandes angoisses masculines, parce qu'il s'agit absolument pour les femmes de condition libre mariées d'enfanter des enfants légitimes de race pure. Donc l'adultère est source d'angoisse.
Mais
dans
le
la
doute.
Société romaine, l'adultère féminin, le doute sur la légitimité ou non des enfants. Donc la sexualité des épouses est extrêmement surveillée. Et l'adultère fait l'objet d'une répression privée et même publique à partir de la fin de la République, avec toute une législation mise en place par Auguste. Ce sont des lois révolutionnaires parce que pour la première fois, dans un domaine privé, l'État intervient pour condamner les adultères féminins. La violence est aussi une question de statut social. À Rome, les hommes et les femmes de condition libre bénéficient d'un principe d'intouchabilité. Il y a une intégrité physique absolument à respecter. On ne peut pas violer, on ne peut pas violenter, on ne peut pas battre, on ne peut pas toucher le corps d'un homme ou d'une femme de condition libre sans son accord. En revanche, avec des esclaves, surtout les esclaves qui appartiennent à un propriétaire, tout est permis. On ne peut même pas parler de viol d'un esclave par son propriétaire, dans la mesure où il a entière possession du corps de son esclave et il en fait ce que bon lui semble. Et pour l'esclave, c'est un devoir que de se soumettre au plaisir de son maître. Donc la question de la violence n'entre pas en ligne de compte dans ce type de rapport entre des hommes de condition libre et des esclaves.
Même si vous dites, en l'occurrence Géraldine Puccini, que la question de la violence est au cœur même d'un imaginaire romain par le viol dès le début de l'histoire de Rome de Rea Silvia par Mars, qui donnera la naissance à Romulus, le fondateur de la ville de Rome, que la question du viol de Lucrèce, dites-vous, est une question importante parce qu'elle permet de passer du royaume et des Tarquins à la République, et que ces questions de viol et de violence joueront un rôle dans les imaginaires et peut-être même dans les législations, dites-vous, des Romains vis-à-vis de cette question de la violence sexuelle.
Oui, la construction de Rome est une construction faite sur la violence faite au corps féminin. Vous avez rappelé un certain nombre de légendes. Rea Silvia, la Vestale, a été violée par le dieu Mars pour enfanter Romulus, le futur fondateur de Rome.
Les Sabines
Romulus
l'ont été.
Lui-même, voilà, Romulus lui-même, avec ses compagnons, une fois la ville fondée, se trouve, dit la légende, sans femme. Donc, par un stratagème, il se procure des femmes par la violence. Il invite les peuples alentours, en particulier les peuples sabins, à venir assister à un spectacle. Et à un signal donné, les jeunes Romains s'élancent sur les filles sabines pour les enlever et pour en faire leurs épouses. Donc l'histoire de Rome commence effectivement par une extrême violence faite aux femmes. Viol collectif des Sabines, etc. Cette violence, les Romains vont avoir l'idée extraordinaire de la légaliser. C'est-à-dire que Romulus, pour apaiser la colère des Sabines enlevées à leur famille, va leur tenir un discours très lénifiant et il va leur promettre de ne pas les traiter en esclaves, mais de les faire épouser par ceux qui les ont enlevés. Donc il institue le mariage comme pilier de la société romaine, et cette violence extrême faite au corps féminin, cette instrumentalisation du corps à des fins de procréation, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, se termine dans la légalité la plus absolue. Elle va être intégrée à l'institution du mariage, ce qui va apaiser tout le monde.
Victor Massé-Dépinay.
Donc c'est une longue histoire de violence, oui.
Oui, je voudrais réintroduire un peu d'anachronisme dans le débat, puisqu'on parle de tabous, on parle d'interdits qui sont qui se posent essentiellement en termes politiques, en termes de vie publique. Qu'en est-il de ce qu'on pourrait appeler la morale individuelle, aujourd'hui la culpabilité? J'emploie pas le mot de péché, mais est-ce que quelque chose de cet ordre-là existe dans la sexualité antique? Est-ce que individuellement, personnellement, on peut avoir des pratiques condamnables, des pratiques dont on pourrait se faire le reproche?
Sandra Boringer.
En fait, pour parler d'individus dans l'Antiquité, il faut se dire que, pour reprendre l'expression de Michel Foucault, c'était que la sexualité était rejetée hors de l'individu. C'était une forme d'extériorité éthique. Donc finalement, un mauvais comportement soulève plutôt la crainte d'être vu, d'être dénoncé, mais pas forcément une remise en cause de son identité. Si on a eu un acte sexuel particulier, il n'y a pas de catégorie psychopathologique dans l'Antiquité qui viendrait dire tu es un pervers, tu es un narcissique, tu es un homosexuel et tu dois changer.
Vous voulez dire que Freud n'a pas vraiment bien lu la question antique quand il a inventé certaines de ces catégories, c'est ça?
Disons, Freud a bien pensé la question de la pulsion, puisqu'il fait le rapport entre l'élan érotique tel que le décrit Platon et la pulsion, c'est-à-dire juste un élan sans objet, donc un mouvement. Donc ça, pour le coup, ça c'était bien vu. Mais pour revenir à cette question de ces sociétés justement d'avant la sexualité, il n'y a pas un rapport à soi qui est le même que celui que nous avons aujourd'hui, et on n'a pas le même rapport à ce que dit le sexe et ce que dit la sexualité de nous. Et ce qui est intéressant, et pour revenir à ce que disait Lydie sur la question de l'hubris, effectivement le terme hubris, qui peut dire démesure, mais qui peut aussi dire outrage, insulte, peut parfois aussi dire, dans certains contextes, violer. Et c'est intéressant parce qu'il faut aller voir les textes eux-mêmes pour savoir si effectivement la personne a été violée ou si elle a juste été insultée. Ça veut dire que finalement, l'outrage physique, un coup, l'outrage verbal, une insulte, public est parfois presque aussi grave qu'un viol sexuel. Disons qu'il n'y a pas de dimension spécifiquement sexuelle à la question du viol. Oui, et là, je voudrais ajouter quelque chose. C'est que, oui, juste pour dire, de souligner quand même tout l'intérêt de l'apport de l'histoire des femmes et des études de genre, parce que ces questions-là sur le corps des femmes, sur la question du viol sur tout type de corps subalterne, ce sont des questions qui se sont d'abord posées en histoire contemporaine et qu'on ouvre aussi, qu'on déploie d'une façon nouvelle, grâce à ces nouvelles méthodes, pour aborder l'Antiquité.
Vous avez d'ailleurs Lydie Baudieu avec beaucoup d'autres donc publié très récemment aux presses universitaires de Rennes violence sexuelle et sexuelle faite aux femmes, les corps en lambeaux, justement, qui évoque cette question des corps des femmes.
Oui, et je reprends ce que pointait Sandra, c'est-à-dire la vraie euphémisation. Il y a clairement parfois l'absence de mots ou la métaphore qui évite évidemment de dire la violence ou l'outrage corporel, d'autant plus qu'il est fait aux femmes. Et la question effectivement du genre montre aussi clairement que l'euphémisation vaut aussi pour la violence faite au corps des hommes. Clairement, le travail collectif qui a été fait sur le livre que vous venez de citer aux presses universitaires de Rennes,
Corps en lambeaux,
oui, qui est un travail interdisciplinaire, a montré et montre l'invariant aussi, sauf à partir du moment où l'inscription se fait dans le corps de la violence avec des marquages, avec des coups.
Mais Sandra Boringer, par exemple, on sait aujourd'hui que si on veut atteindre justement ces violences faites, par exemple, aux femmes, il faut passer souvent par les registres de la justice, par la question des procès, par d'autres types de sources que les sources que vous possédez peut-être d'une certaine façon, qui sont des sources littéraires ou des sources médicale. Qu'en est-il justement de ces procès? Y avait-il des procès, le sait-on, sur des questions qui relèvent de ce qu'on appellerait aujourd'hui la sexualité dans la Grèce antique, ou n'en trouve-t-on pas? Et je poserai la même question à Géraldine Puccini-Delbé tout à l'heure.
Pour la violence, il y a les images. Il y a les textes aussi, hein, mais il y a l'iconographie. Et moi, j'ai en mémoire en particulier une peinture, hein, qui montre l'enlèvement de Corée par Hadès. Et il y a pas les mots, il y a pas les sons, hein, mais la représentation est suffisamment forte pour voir la violence. Et puis nombre de figures rouges, hein, qui montrent des scènes où l'homme tient dans sa main la sandale et des coups qui sont donnés lors de moments d'échange sexuel. Donc, ouais. Donc la violence, on la voit aussi.
Sandra Boringer.
Disons, dans la question des procès, c'est rarement la question de l'atteinte au corps de la femme qui pose problème. C'est plutôt, justement, on a des procès pour adultère. Mmh. On n'a pas de procès pour viol de femme. Parce que, de nouveau, c'est la question de la préservation de l'oïkos qui se pose. Donc, la violence, on la voit, mais elle n'est pas forcément condamnée. En fait, c'est ça la différence aussi entre la façon de catégoriser les actes. C'est qu'est-ce qui est légitime ou qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est possible ou impossible. Et peut-être pour revenir à la question des normes, la question des normes morales, il y a un poids, c'est-à-dire qu'il y a des attentes, mais il n'y a pas véritablement de loi qui s'appliquerait à tel ou tel comportement, toujours, parce qu'il n'y a pas de ministère public. Donc, en fait, certaines lois, on les active lorsqu'on a d'autres choses en jeu. Il y a différents procès dont on sait très bien qu'ils ont été intentés à un moment donné parce qu'il s'agissait de régler des comptes avec quelqu'un d'autre. Il y a un procès pour violence, plus ou moins, dans le contre Simon, une personne qui se plaint d'avoir été malmenée par Simon qui lui a lancé des cailloux et qui l'a frappé parce que tous les deux étaient amoureux d'un même garçon. Donc finalement, ce qui vient sur la scène des procès, c'est certains aspects. Mais justement, l'apport des études de genre, c'est aussi de nous avoir formés à lire les sources pour quelque chose d'autre que ce qu'elles voulaient dire a priori. Ça ne veut pas dire qu'on va les contourner, qu'on va les détourner, simplement qu'au cours d'une mention, eh bien, on saura, par exemple dans ce procès, dans le contre Simon, justement, il y a une course-poursuite dans la maison et on apprend que la personne passe dans telle pièce où il y avait la femme de la personne plus ses sœurs. Et donc on apprend, presque à contre-courant dans une lecture Against the Grain, pour reprendre les propos de John Winkler, qui est quelqu'un qui a vraiment travaillé sur justement ce que les textes disent implicitement mais sans vouloir le dire explicitement. Et on apprend énormément de choses. Et pour revenir sur la question des normes aussi, bien sûr, nous avons des textes prescriptifs, on a des procès, on a des textes qui nous disent ce qu'il faut faire. Mais il y a aussi parfois la possibilité de contourner ces normes. C'est pas parce que les sources disent que c'est comme ça que la réalité des pratiques est telle. Oui. Et donc, il est aussi intéressant de voir quelle est l'agency des individus prise dans ces normes.
L'agency, c'est donc la capacité d'agir.
Oui, la capacité d'agir de certaines femmes qui ont pu, malgré l'inégalité qui existe entre la femme citoyenne et l'homme citoyen, qui ont pu quand même, parfois, refuser un mariage imposé, gérer des biens, former un fils pour qu'il devienne un jour un orateur. On pense à la mère de Démosthène. Donc il y a aussi des capacités d'agir. Et dans le domaine érotique, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a ce qu'on montre, quel type de pratiques qui sont moins bien vues, donc on ne va pas forcément les représenter sur des vases érotiques, et ce qu'on ne montre pas, mais qu'on fait quand même. Et on joue avec ça. Et François Lissara, qui analyse les images, a montré, par exemple, que tel type de pratique érotique, comme la sodomie, par exemple, entre deux hommes, n'est pas représenté sur les vases, mais on représente des satyres, donc qui sont des bêtes mi-hommes, mi-animaux, qui pratiquent ce genre de choses, visiblement. Donc on contourne les normes pour les montrer, ce qui veut bien dire aussi que différents types de pratiques se faisaient, justement, malgré ces normes officielles, Victor, et sans culpabilité particulière.
Victor Massel Lépiné.
Oui, Géraldine Puccini, on parle depuis tout à l'heure de société d'avant la sexualité. Il y a un moment, on ne sait pas, c'est pas un jour précis, mais où la sexualité, où la société deviennent sexuelles. Est-ce que c'est vers ces débuts, enfin ces premiers siècles de notre ère, dans l'Empire romain, où la notion d'amitié conjugale commence à apparaître dans les sources, ou même le mythe d'amour conjugal commence à apparaître dans les textes, que quelque chose qui est de l'ordre de la conscience individuelle de la sexualité commence à exister?
Oui, on pourrait dire qu'avec l'arrivée d'Auguste au pouvoir, à la fin du 1er siècle avant notre ère, la société romaine commence à changer, les mentalités évoluent. La notion d'individu commence à émerger dans la mesure où les conditions politiques changent. Auguste prend tous les pouvoirs, concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Donc la société se dépolitise, les citoyens ne sont plus obligés de faire de la politique tous les jours. Et donc, ils vont pouvoir se concentrer sur eux-mêmes, sur leurs pulsions, sur leur vie privée, sur leur vie intime. C'est ainsi que l'on explique l'émergence de la notion d'individualisme et d'individu dans cette période charnière, 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ. Et tout au long de l'Empire, ensuite, 1er et 2e siècle de notre ère, il y a une évolution très nette. La morale stoïcienne envahit l'élite sociale et donc une forme de moralisation se fait qui permet la mise en place de relations conjugales un petit peu différentes de la période républicaine où la notion d'amour non pas à entendre au sens sexuel et érotique du terme, mais à entendre au sens de sentiment, d'affection, se développe. Oui, donc la femme reste toujours inférieure, mais dans un échange, dans une complicité, une tendresse qui commence à apparaître dans les textes entre elle et son époux.
Ce qui veut dire, sur ce point, Géraldine Puccini-Delbé, que le choix de cette chronologie pour la question des concours, capes agrégation, vous apparaît justifié, parce que s'il avait fallu venir jusqu'au 1er ou 2e siècle de notre ère, par exemple, dans famille, société, dans le monde grec et en Italie, on aurait dû intégrer des profonds changements dans ce regard porté sur ce qu'était cette famille et ses relations entre hommes et femmes, par exemple, entre époux et épouse, par exemple.
On aurait dû intégrer une évolution nette de la conjugalité, oui.
Merci à toutes les trois. Sandra Boringer, vous vouliez rajouter un petit mot peut-être que vous n'avez pas pu donner tout à l'heure à propos des questions des relations entre femmes dans l'Antiquité ? Je vous ai coupé tout à l'heure, brièvement.
Brièvement, c'était pour dire que il y a une période de l'histoire où on a des sources assez importantes et assez abondantes avec la poétesse Sappho. Et ce qui est intéressant, c'est que la poétesse Sappho chante, ou en tout cas met dans la bouche d'une personne qui dit « je » au féminin, un élan érotique, très physique pour une autre femme, avec des caractéristiques qui vont être reprises dans le temps. Ça va être repris par Catulle à Rome. Donc, ce qui est intéressant, c'est la caractéristique de cet élan érotique qui était lesbien en termes anachroniques, devient une caractéristique, ou en tout cas est une caractéristique érotique tout court durant les siècles qui vont venir. Et Sappho va être repris, considéré comme une grande poétesse. Et on trouve aussi, c'est assez intéressant, sur un vase grec dans une coupe grecque qui circulait dans les banquets, qui contenait du vin, on trouve une mention d'un vers de Sappho chanté dans un contexte homoérotique masculin. Donc ce qui est intéressant en tout cas pour la question de la sexualité, c'est qu'on n'explore pas forcément un domaine strict et limité, mais plutôt, comme disait Michel Foucault, l'évolution d'un étrange et nouveau rapport à soi-même.
Voilà, bien merci à vous Sandra Boringer. Je rappelle que les textes que vous avez rassemblés avec Violaine Sébillotte-Cuchet s'intitulent « Hommes et femmes dans l'Antiquité grecque et romaine », deuxième édition chez Armand Collin. Chez Armand Collin, on trouve aussi sous la plume d'Aurélie Damé et de Philippe Moreau le manuel « Famille et société dans le monde grec et en Italie ». Vous avez participé vous-même, Lydie Baudiou, à un manuel donc pour les préparations des concours qui est édité chez Ellipse, c'est ça ?
Oui, et je voulais dire qu'il y en a un qui sort aux presses universitaires de Rennes sous la direction de Jérôme Vilgaud, Jean-Baptiste Bonnard et Véronique Dazen, qui va compléter admirablement ceux qui sont déjà sortis.
Voilà, il y aura donc trois manuels pour tous ceux qui préparent et toutes celles qui prépare les concours ces temps-ci. Géraldine Puccini-Delbé, votre livre « La vie sexuelle à Rome » est disponible en point seuil. Merci à nos confrères de Strasbourg et de Bordeaux de vous avoir accueillis toutes les deux en duplex. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Nous avions la chance d'avoir Victoria Asper à la technique aujourd'hui et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez télécharger nos 4 émissions consacrées à l'Antiquité dans tous les sens en vous y rendant. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Vous pouvez également nous suivre sur le réseau Twitter et l'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.